Coup de sûr. Dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Hey boy.
Radio X.
Ouais, qu'est-ce que ça y a de la rencontre entre Mark Carney et Donald Trump? On va le voir, là. D'après moi, les Américains commencent à faire mal, là. L'aluminium, l'acier, l'énergie. J'ai hâte de voir. Mais d'après moi, là, il se passe. Puis les élections de mi-mandat qui s'en viennent aux États-Unis.
Ouais.
Les aiguilles bougent, selon moi.
OK. Mais hier, on n'a rien gagné.
Je pense qu'il y a des avancées qu'on n'a pas là.
Mais
d'après moi, il y a des. Il y avait des sourires quand même.
Oui, oui. Écoute, voyons comment on dit ça, là. On s'en sensait, là.
Ben oui.
Mutuellement, un et l'autre.
C'est du Trump.
Tout craché.
Voilà. Notre chroniqueur, il est là.
Oui.
Sylvain Charlebois, le food professeur. Sylvain, comment vas-tu?
Ça va très bien, Pierre, toi?
Ça va très bien. Et comment tu décortiques ça hier, le show qu'on a eu à la Maison-Blanche?
Ben, tu sais, dans le fond, on est un peu habitué maintenant de voir des rencontres qui aboutissent à rien. c'est pas. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi que Mark Carney est allé à Washington. Là, on sait bien que les ministres sont encore à Washington pour travailler avec.
C'est bon signe, quand même?
Ben, écoute, pendant un bon bout de temps, là, Donald Trump ne parlait pas à Mark Carney.
Oui, non.
Donc, cet été, là, c'était vraiment le noir, là, mais maintenant, on se parle. Fait que pour ce qui est de la diplomatie, c'est toujours une bonne chose qu'on se parle, mais quand les deux dirigeants se rencontrent, normalement, il y a des annonces, il y a quelque chose qui se passe,
oui.
Y a une indication comme quoi les choses progressent, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Mais c'est il faut quand même... Je pense que Mark Carney comprend très bien que les cartes là, appartiennent à Donald Trump et aux Américains, parce qu'en appliquant des tarifs... Moi, je me souviens que le Wall Street Journal annonçait au mois de février que l'économie américaine était pour s'effondrer d'ici mai. Ça, c'était en février. Là, on est maintenant rendu au mois d'octobre. Et c'est sûr que les choses ralentissent un peu, là, mais en fait, les choses vont quand même assez bien économiquement.
On a vu les chiffres là, d'emploi au mois de... Notamment le mois d'août, c'était 22 000 emplois créés aux États-Unis. En septembre, on a eu des chiffres préliminaires, mais parce qu'à cause du shutdown, on n'a pas eu les chiffres officiels, mais on parle de 32 000 emplois. C'est pas des gros chars, là. Puis là, je pense que les Américains, ils voient qu'il va falloir qu'il se passe de quoi, là, parce que les entreprises américaines avaient commandé beaucoup d'aluminium, entre autres, de bois, pour prévenir là, ce qui s'en venait, là, le conflit.
Ouais.
Mais là, on veut recommander, mais les prix ont monté beaucoup. Là, je pense qu'on entend les entreprises américaines dire à Trump, là, faites quoi, là? Parce que...
C'est sûr qu'il y a de la pression, mais Trump mise beaucoup sur les entreprises qui réinvestissent aux États-Unis. Et quand il dit ça, c'est vrai, là, on voit que, tu sais, les Apple, il y a plusieurs entreprises, on l'a vu chez nous avec Diageo, puis Crown Royal. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui décident de retourner aux États-Unis pour desservir le marché américain. Alors, sa stratégie en partie fonctionne, mais tu as raison.
Les prix,
C'est sûr que les prix pourraient affecter l'économie à long terme, puis les entreprises le ressentent, ça. C'est clair. Là.
Moi, ça ne me surprendrait pas qu'on...
Ce qui est vraiment, ce qui met le Canada vraiment dans une position vulnérable, c'est qu'il y a des pertes d'emplois au Canada, tandis qu'aux États-Unis, il y a toujours une création d'emplois.
Ouais.
Fait que, tu sais, mais est-ce qu'on va éviter la récession? Je pense que oui.
Oui.
Mais c'est sûr que des deux côtés de la frontière, là, l'économie ralentit. Là.
Mais moi, je pense qu'il se passe de quoi, là? Ils n'ont pas fait venir. Et puis, tout était positif hier, là. Je comprends qu'il n'y a pas eu d'annonce, mais on travaille sur quelque chose. Il va y avoir un scénario qui. Ça va popper, là.
Moi, je le lis de façon différemment. T'sais, moi, quand j'ai regardé la conversation dans le bureau Oval, c'était vraiment la première fois que je voyais clairement qui Donald Trump voulait comme premier ministre au Canada avec les élections du mois d'avril.
Ouais.
Je pense qu'il est vraiment plus à l'aise avec Mark Carney simplement parce qu'il est en mesure de manipuler le Canada davantage. Dans le cas de Pierre Poilievre, Ça aurait été plus naturel de travailler avec Pierre Poilievre, bien sûr. Là. Chose que les Canadiens ont rejetée, bien sûr.
Ouais.
Mais en bout de ligne, moi, je pense que, tu sais, ils voient... Tu sais, quand je regarde le Mexique, par exemple, le Mexique, là, la présidente Sheinbaum, là, Donald Trump a beaucoup de difficultés à travailler avec Sean Lebaum parce qu'elle est, elle est vraiment une diplomate qui est difficile à gérer. Puis depuis ce temps-là, depuis que Donald Trump est au pouvoir, l'économie mexicaine va très bien, là. Et les Mexicains ont augmenté leur exportation vers les États-Unis. Fait que tu vois qu'il y a vraiment deux régimes différents. En Amérique du Nord, Donald Trump avait besoin d'un allié qui avait besoin de manipuler. C'est plate à dire, là, mais moi, je pense que...
Vulnérable, hein? Oui, oui.
Il voit très bien qu'il est capable de manipuler le Canada, là, parce qu'il a vraiment... Il a obtenu beaucoup et
c'est pas fini.
Il a fait aucune concession.
C'est pas fini, là.
Zéro concession, là, ça. Encore. Là. Ça. On oublie ça, là, mais Mark Carney a donné beaucoup aux États-Unis puis on n'a rien reçu en retour encore.
Là, on dit que sur libre-échange... toute l'histoire du lait, puis les comment on appelle ça, là, les...
Bon, l'autre chose que j'ai appris hier par rapport à la gestion de l'offre, c'est que...
Gestion de l'offre, c'est ça, ouais.
C'est clair que Donald Trump, là, se fout de la volaille puis des œufs, là. Lui, vraiment dans
lait,
sa mire, là, c'est le lait.
Ouais.
C'est tout. Puis tant mieux, parce que moi, je pense que il faut épargner notre industrie de la volaille et des œufs, parce que ce sont deux filières qui vont quand même relativement bien. Ce sont deux filières qui sont très compétitives. Mais dans le cas du lait, là, à mon avis, le lait vraiment a des problèmes.
Mais pourquoi on n'exporte pas notre lait? Pourquoi on n'est pas capable d'exporter à l'extérieur du Canada notre lait? On en vend-tu du lait?
Parce que nos prix ne sont pas compétitifs, Pierre. Quand tu regardes le prix du lait industriel au Canada versus les États-Unis, c'est en moyenne entre 25 et 50 % plus cher. Comment veux-tu compétitionner quand ton lait est très cher? Fait que dans le fond, les consommateurs québécois, canadiens, subventionnent une filière qui n'est pas compétitive.
À l'extérieur.
Est-ce que la qualité est bonne? Bien, si tu demandes à un producteur de lait, il va te dire oui, la qualité est excellente, mais il n'y a aucune recherche qui démontre que le lait canadien est meilleur que le lait américain ou ailleurs.
C'est sûr que les lobbies font le job là, là-dedans. Là.
Ouais. Donc, c'est pour ça que, tu sais, moi, je pense que le wake-up call que la filière laitière a besoin va venir de Donald Trump. Je le dis depuis des années, depuis 2016, lors du premier mandat de Donald Trump. Celui qui va sauver notre industrie laitière,
ouais,
ça va être Donald Trump. Parce qu'à l'intérieur du pays, au Québec, la Fédération ne veut rien savoir, ne veut pas compétitionner. Ils ne sont pas intéressés du tout. Ils veulent avoir un bon prix. Ils veulent offrir aux Québécois, aux Québécoises, un produit correct.
Mais on le paye cher, notre lait, là. Hein? Ouais. On le paye beaucoup plus cher qu'ailleurs, là.
C'est ça, exactement. Donc, souvent, les comparatifs sont au détail. On compare les prix au détail, mais il faut aller au gros. Puis quand on compare le prix industriel du lait au Canada, il est vraiment plus cher. Donc, les Saputo, les Agropur, les Lactalis, les acheteurs de lait, là, ils vont vous le dire, là, ils payent très cher pour leur intrant au Canada.
Et c'est pour ça que ces joueurs-là sont ailleurs. Hein? Je regarde Saputo, ils ne sont pas juste au Canada. Là. Ils sont dans,
ouais,
d'autres pays, dans d'autres continents. Oui, c'est ça.
Oui, puis la demande pour le lait va augmenter à travers le monde.
Ben oui, là. C'est ça, en que fait, je comprends.
Il va avoir un déficit d'ici 2030. Là, il va manquer 5 fois la production nationale du Canada à travers le monde. Alors, c'est une opportunité incroyable pour l'industrie laitière québécoise de prendre avantage d'un déficit partout, surtout en Asie. Là. Les gens disent, le lait, ça s'exporte mal. Ben, c'est parce que la Nouvelle-Zélande exporte pour 25 milliards de dollars de lait, de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande au milieu de nulle part en Asie. Là. C'est faisable. Là.
C'est faisable, mais il va falloir que l'industrie peut-être... se réveille ou se réalise ce potentiel-là?
Bien, le problème, c'est que moi, je pense ce qui va arriver, là, c'est que Donald Trump va demander au Canada de faire des concessions. On va en faire. On va ouvrir davantage le marché canadien.
On va compenser américains. Aussi, hein?
Puis on va envoyer un autre chèque de 1,7 milliard de dollars pour que les producteurs de laitiers se ferment la trappe, entre guillemets. On va aboutir à la même place qu'on est là en ce moment. Là, on va avoir une filière qui va être surcapitalisée, qui ne sera pas compétitive.
Et c'est ça le drame.
C'est ça le drame. Ben oui, absolument. Puis c'est tout le monde qui paye pour ça. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, lorsque vous allez à l'épicerie là, pour acheter votre pinte de lait, là, vous la payez deux fois. vous la payez comme contribuable parce que vous subventionnez votre filière laitière et vous la payez à l'épicerie en même temps.
Le prix.
Pour un lait qui est, disons, de qualité moyenne.
À suivre.
C'est ça. C'est ça.
À suivre sur la messagerie. Sylvain, à suivre sur la messagerie.
Oui, c'est ça.
Mais oui.
Hey, Tim Horton qui augmente ses prix. Là, le café, on comprend. Bon, le prix du café a monté beaucoup. On ajuste.
Je sais pas si au Québec, c'est le drame total, mais dans le rock, dans le rest of Canada, lorsque Tim Horton annonce une augmentation de prix, tout le monde capote. Mon Dieu, le café donc ben cher. On parle de 3 cents pour une tasse.
Oui, c'est ça, c'est ça. 3 cents. C'est plus canadienne, ça, parce qu'au Québec, là, je veux dire, Tim Horton, oui, ils sont populaires, mais il y en a d'autres chaînes de café. Beaucoup de petites chaînes de café, comme ici à Québec, là. Je te parle de Café Smith là, qui a pris le contrôle là, de la ville, carrément. Il y a beaucoup de petites brûleries comme ça qui ont pris le relais.
Oui. Mais en fait, la raison pourquoi je voulais vous en parler, c'est que au Québec et ailleurs, il y a une petite guerre qui se passe pour la troisième place. Là, en fait, on veut courtiser les gens qui voyagent entre le travail et la maison.
Ouais.
Puis Starbucks puis d'autres chaînes, ou même Tim Hortons, veulent justement qu'on arrête prendre un café, quelque chose comme ça. L'augmentation de Tim Horton m'a fait sourire un peu parce qu'on parle de 3 cents. Normalement, quand Tim Horton augmente ses prix, on parle de 10 cents à 25 cents.
Oui, oui, oui.
Mais je pense qu'on s'est gardé une petite gêne parce qu'il y a de la compétition. McDonald's offre sa tasse de café, sa petite tasse de café à 1 $ encore.
Moins cher. Ben oui, c'est moins cher. Oui.
Mais pour ce qui est de la tasse moyenne et de la grande tasse, la large, là, Tim Horton demeure le moins cher, mais c'est probablement pas le choix préféré des gens. Je ne sais pas si la dernière fois que vous avez été à un Tim Horton, là, moi, je suis allé dans un Tim Horton, je pense, la semaine passée. J'ai 55 ans, puis je diminuais la moyenne d'âge des gens qui étaient dans le restaurant. Là.
Ben moi, tu sais, j'y allais beaucoup avant la pandémie. Et c'était parce que j'avais me déplacer vers le lieu où je travaillais, puis j'arrêtais toujours Tim Horton le matin.
Ouais, c'est ça. Il y avait un Tim Horton pas loin. Là.
Ben, tu sais, pandémie, puis changement d'habitude. Puis, tu sais, à cette heure-là, je vois plus vraiment chez Tim Horton. J'y allais beaucoup. Donc, tu dis, la clientèle très âgée aussi.
Ouais. Ben, en fait, chez nous, il y avait un Tim Horton qui a fermé. J'étais déçu parce qu'il fallait que je traverse la rue pour aller à l'autre Tim Horton en face.
C'est ça. C'est ça. Donc, tu sais, il y a ça aussi. Je pense que Starbucks commence aussi à fermer aussi au Québec. Là. On a commencé à faire un ménage.
À Starbucks, oui, il y en a eu plusieurs. Il y en a 150 au Canada seulement. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Ça va très mal. Les coûts augmentent chez Starbucks. Puis on a de la misère à compétitionner. Puis le café est très cher.
Ben, c'est
pour
ça.
Le marché économe, c'est cher.
Oui. Puis là, on voit la situation économique des Québécois. Ça, ça aussi, c'est un indicateur. Là. Quand tu as des cafés qui ferment, des grandes chaînes de cafés qui ferment leurs succursales, il y a des indices à décoder aussi.
Oui. Donc, augmentation de café, oui, mais c'est pas si dramatique que ça, à mon avis. Puis oui, j'encourage les gens de découvrir les cafés indépendants.
Oui,
il y en
exactement.
A plusieurs à Québec.
Oui.
Là,
café Smith, entre autres. Eux autres sont agressifs.
C'est
de
beauté.
Mais c'est un très beau café. Là. Le temps file. Il nous reste quelques minutes. Doc Ford continue. Là. Il avait droppé une Crown Royal. Puis là, il menace Diageo de d'autres marques. Là. Il veut vider les bouteilles
Smirnoff,
de tout.
Smirnoff, Guinness, Tequila. Hey, c'est... C'est la pire bêtise que j'ai vue. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui massacre François Legault au Québec. Là.
Ouais, ben oui, un peu. Là,
Mais s'il y a un premier ministre qui devrait gagner le prix de l'imbécilité nationale, c'est Doug Ford.
Qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est Captain Canada, c'est stéroïde ou...
T'sais, pour rappeler aux gens pourquoi que Doug Ford est frustré envers Diageo, qui est le propriétaire de Crown Royal, c'est que Diageo a décidé de fermer son usine à Windsor, en Ontario, et l'a déménagé aux États-Unis. Ça, Diageo, c'est une compagnie britannique. Et puis, depuis ce temps-là, Doug Ford t'en maudit.
Oui.
Et puis, il y a deux semaines, devant les caméras, il a décidé de vider une bouteille Crown Royal. C'est une scène dramatique, finalement.
C'est disgracieux, là.
Bon, oui, absolument. Fait que, là, mais est-ce qu'il semble pas réaliser ou peut-être qu'il veut pas le dire, là, c'est que Crown Royal va continuer à être fabriqué au Canada. Là. D'ailleurs, c'est fabriqué au Manitoba et embouteillé au Québec. Là.
Moi, je pense que c'est ça qui le tente plus qu'autre chose.
Ben, c'est ça, mais le problème, c'est que Captain Canada, en fait, menace une compagnie, veut retirer des produits de la LCBO, qui est l'équivalent de la SAC en Ontario, veut boycotter, en fait, ces produits-là. Et ça pourrait faire mal à des emplois syndiqués au Manitoba et au Québec.
Ah oui.
Captain Canada. C'est pas très fort. Fait que n'importe quel PDG à travers le monde qui regarde ça aller au Canada, là, en regardant Doug Ford. Puis en passant, Doug Ford attire beaucoup d'attention à travers le monde. Hein. C'est le premier ministre de la province la plus populeuse au Canada. C'est 16 millions de personnes là, quand même. Fait que, tu sais, Doug Ford, là, il est à CNN, il est à Fox,
oui.
Tu sais, il est connu aux États-Unis, là. Fait que, quand il parle comme ça, quand il décide de massacrer une marque, là,
ça fait
pensez-vous que ça va encourager d'autres entreprises d'investir au Canada?
Mais non, ils disent, voyons.
Incluant le Québec?
Ben oui, il est en train de péter un câble.
Fait que, ce qui se passe en Ontario avec Crown Royal, puis avec Smirnoff, puis tout ça, ça va peut-être influencer... Ça va affecter le Québec éventuellement parce que Doug Ford est en train de massacrer la réputation du Canada comme étant une belle place pour y investir.
Non, ça va pas bien. Je pense que Doug va peut-être appeler son psy.
Dougie!
Oui, Dougie Style.
Savez-vous, c'est quoi son surnom dans le Canada anglais?
Non,
c'est quoi? Fat Trudeau.
Oh, OK. C'est un Red Tory, hein?
C'est un Tory, mais c'est un Red Tory. Puis tout le monde le compare à Trudeau, mais évidemment, il y a quelques livres en trop qu'on s'entend. Fat Trudeau, voilà.
Bon, ça, à suivre, Sylvain, tu es salué. Mais ton podcast, hein, le Food Professor.
Podcast, le Food Professor, prochain épisode demain matin.
Salut!
Salut!
Bye-bye. Voilà, Sylvain Charlebois. Alors, ben écoute.
Toujours bon, hein? On paye, hein? On paye.
Fat Trudeau.
Doug Fat Ford. Trudeau.
D'ailleurs, JC l'appelle Ding et Dong.
Oh oui, mais il n'y a pas tort.
Ding et Dong étant Legault et deux bodés, là. Deux gros bodés. Hey, on ouvre les lignes après la pause.
88-670-9098. Je vous rappelle qu'en participant à la ligne ouverte, vous pouvez devenir finaliste pour gagner cette semaine 100$ à dépenser chez Benny et Co.
Bon, on s'en va où? Parce que là, les Québécois ont plus d'argent. On l'a vu hier. Un Québécois sur deux est à 200$ de l'insolvabilité.
Absolument. Ça veut dire que tu as un pneu qui pète sur ton char, t'es dans la merde.
N'importe quoi.
Non, mais c'est un exemple.
Ça frippe. Est-ce que c'est votre cas? Si oui, moi, la question, c'est depuis les dernières années, est-ce que votre situation économique, personnelle, puis là,
financière personnelle,
on veut pas connaître votre nom, là. Est-ce que ça s'est détérioré?
Ou amélioré?
Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que c'est au neutre? Qu'est-ce que vous avez fait aussi pour essayer de virer à machine de bord?
Tu sais, hier, il y en a qui maintenant ont deux ou trois jobs pour arriver. Puis le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as un deuxième emploi, mettons, à temps partiel, et le gouvernement vient te chercher en tabarouette.
C'est épouvantable.
Ben, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de temps d'issue, là.
Ben, il n'y a pas de temps d'issue. Il y a peut-être l'issue de dire on vend-tu à la maison, on s'en va en appartement. Tu sais, il y a des affaires de même aussi, là. Mais là, on réitère au niveau... parce que des fois, avoir une maison avec les taux d'intérêt, les hypothèques qui augmentent, il y a plein de choses. On veut vous entendre.
88-670-9098.
On revient.
Couture dans le mid. Radio X.